Chez soi, on est censé se sentir en sécurité. Et ici, à la rédaction, on sait que rien n'est plus dangereux ni effrayant que quand le mal s'insinue sur le toit de ce qu'on appelle notre foyer. En 1982, Brighton, dans l'État de New York, est une banlieue paisible de la ville dynamique de Rochester.
Je m'appelle Gloria Winkowski. Mon mari et moi, nous sommes installés à Brighton en septembre 1981 avec nos deux enfants en bas âge. Brighton était une ville très paisible et très sûre, qui offrait beaucoup d'activités pour les enfants et où beaucoup de jeunes couples s'installaient.
Parmi ces jeunes couples, Jim et Kathy Krausneck et leur fille Sarah, âgée de 3 ans.
James et Kathleen Krausneck venaient de Mount Clemens, dans le Michigan. À la fin des années 1960, ils fréquentaient le même lycée, mais ils ne se connaissaient que de vue.
Je m'appelle Stephen Hunt, je suis inspecteur à la police de Brighton. James Krausneck venait d'une famille aisée, tandis que Kathy était issue de la classe ouvrière.
Jim était très calme et réservé. Au lycée, il restait dans son coin, alors que Kathy était extravertie et dynamique.
Ils se sont rapprochés à l'université en 1970. Jim faisait des études d'économie et Kathleen d'ergothérapie.
Ils ont commencé à se fréquenter à l'université et sont vite devenus inséparables.
Kathy et Jim se sont mariés en 1974 et sont partis vivre à Fort Collins, dans le Colorado. Jim est allé à l'Université d'État du Colorado pour passer son doctorat en économie. Et Kathy a trouvé un travail comme ergothérapeute. Et puis en 1978, leur fille Sarah vient au monde.
Après avoir terminé son doctorat, Jim devient professeur d'économie à l'université, mais très vite, une nouvelle opportunité se présente.
La société Kodak lui propose un poste dans l'État de New York en tant qu'économiste. Le couple déménage à Rochester à l'automne 1981.
La famille s'installe à Brighton, et grâce au salaire plus élevé de Jim, Kathy peut se permettre d'être mère au foyer. Mais ce changement de vie n'est pas sans conséquences.
Jim aimait son travail, mais il avait beaucoup de responsabilités. Il partait travailler à 6h30 et rentrait parfois tard le soir. Kathy n'était pas très heureuse à Brighton. Elle se sentait isolée. Jim prenait la voiture tous les jours pour aller travailler, donc elle était coincée à la maison.
Mais très vite, Kathy se fait une amie.
J'ai rencontré Kathy en septembre 1981 à l'école maternelle où allaient nos enfants.
Kathy et Gloria se rendent compte qu'elles ont beaucoup de points communs.
Elle était comme moi. On est arrivés à Brighton en même temps et on avait le même âge, 29 ans. Nos enfants avaient eux aussi le même âge. Et on a découvert que nos mères étaient polonaises. Alors on a commencé à faire des cookies ensemble parce que les Polonais aiment la pâtisserie, les pierogies et toutes ces bonnes choses. Kathy et moi, on s'appelait tous les jours, soit elle, soit moi. Quand je ne l'appelais pas, elle m'appelait pour me demander pourquoi je ne l'avais pas appelée.
La semaine du 15 février 1982, les enfants sont en vacances d'hiver.
Le jeudi matin, on s'est appelés. Kathy m'a dit, j'ai un service à te demander. J'ai rendez-vous chez le pédiatre demain pour Sarah. Si Jim ne me laisse pas la voiture, est-ce que tu peux nous emmener chez le pédiatre? J'ai répondu, bien sûr, avec plaisir. Elle a dit, je t'appelle demain pour te tenir au courant.
Le lendemain, Kathy ne se manifeste pas.
J'ai dû appeler au moins 10 fois. Ça sonnait dans le vide. J'ai soudain eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit, oh là là, il a dû se passer quelque chose.
Puis, vers 17h, la police de Brighton reçoit l'appel d'une voisine qui vivait en face.
Venez vite à Del Rio Drive. Je crois qu'il y a eu un meurtre dans la maison d'en face.
D'accord, calmez-vous. Que s'est-il passé?
Je sais pas. Son mari est là, il est sous le choc.
Jim et Sarah sont chez les voisins et quelques minutes plus tard, la police arrive.
Les policiers se sont approchés de la maison et ils ont vu que la vitre de la porte était cassée. Apparemment, on était entré par effraction.
Les policiers sont entrés dans la maison, puis ils sont montés à l'étage. Et ils sont allés dans la chambre des parents, et dans le lit, il y avait Cathy. Tout ce qu'on voyait, c'était des cheveux et le manche d'une hache.
Après avoir fait le tour de la maison, les policiers contactent leurs supérieurs et leur expliquent la scène macabre qu'ils ont découverte.
Quand je suis arrivé sur place, vers 19h, les techniciens de la police scientifique étaient déjà à l'œuvre. Ils ont inspecté la chambre des parents, où le corps avait été trouvé, et ils n'ont constaté aucune trace de lutte.
Je m'appelle Patrick Gallagher, et je suis substitut du procureur du comté de Monroe. Elle était couchée dans le lit, sous la couette. Rien ne semblait avoir été déplacé. Elle portait une chemise de nuit et une culotte. Tout semblait normal. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle. D'après le médecin légiste, la victime est morte entre 4h30 et 7h30 du matin.
Tout portait à croire qu'elle dormait profondément quand elle a été assassinée. Il semble qu'on l'ait attaquée par derrière, en lui plantant une hache dans le crâne, ce qui l'a tuée sur le coup.
L'inspecteur Corrigan examine le reste de la maison.
Quand on a inspecté l'entrée de la maison, on a constaté qu'il y avait une deuxième hache, une cognée pour fendre le bois, qui avait servi à briser l'une des vitres de la porte d'entrée et qui avait été posée contre le mur à droite de la porte. Apparemment, c'était par là que quelqu'un était entré par effraction. À l'intérieur de la maison, il y avait des objets par terre dans la salle à manger. Il y avait un service en argent et des objets de décoration qu'on avait prévu de mettre dans un sac poubelle.
Sur la face interne du sac poubelle, on a trouvé une empreinte de chaussure avec un dessin en forme de vague très particulier.
On est parti du principe que l'empreinte appartenait au tueur.
On a aussi trouvé le sac de Cathy, vidé par terre. Tous ces indices donnaient à penser que l'intrus était en train de cambrioler la maison.
À l'autre bout de la ville, Gloria Winkowski apprend la triste nouvelle.
Mon mari est rentré et m'a dit « on l'a assassiné ». J'ai dit « je peux pas le croire ». Je peux pas le croire. J'ai rappelé chez elle. Un policier a décroché, j'ai cru que c'était Jim. J'ai dit, c'est Jim ? Non, je suis l'agent Attel. Je lui dis, dites-moi que ce n'est pas vrai. Désolé. Oh non. C'est sûrement la pire chose qui me soit jamais arrivée, perdre une amie comme elle. Vraiment.
Ce soir-là, Jim Krausnick et sa fille Sarah sont conduits au commissariat pour être interrogés.
Il semblait très choqué par ce qu'il était arrivé à son âme-sœur, à sa femme, et inquiet pour sa fille. Elle était épuisée. Vous imaginez une enfant de 3 ans qui doit gérer tout ça?
Jim raconte à la police sa journée. Il dit que quand il s'est réveillé, tout était calme dans la maison. Cathy dormait encore et Sarah aussi.
Jim déclare qu'il est parti travailler vers 6h30 et que sa femme était vivante à ce moment-là.
Il a dit qu'il a passé une journée normale. Comme Sarah avait rendez-vous chez le pédiatre dans l'après-midi, il est rentré vers 16h50 pour la conduire chez le pédiatre. Il est monté, et c'est là qu'il a trouvé sa femme dans le lit avec une hache plantée dans le crâne.
Il a dit qu'il est allé dans la chambre de sa fille et qu'elle était là, blottie dans un coin. Elle n'avait rien. Alors il l'a attrapée, il est sorti de la maison et il est allé chez les voisins d'en face qui ont appelé la police.
La police demande à Jim s'il reconnaît les armes trouvées sur place.
Il a dit que la cognée et la hache lui appartenaient et qu'elles étaient dans le garage quand il est parti travailler ce matin-là.
Après avoir pris la déposition de Jim Krausneck, les enquêteurs prennent soudain conscience qu'il y a un témoin potentiel du meurtre.
On ne voulait pas interroger Sarah. Elle n'avait que 3 ans. On ne savait pas comment elle vivait tout ça. Mais il fallait qu'on lui parle.
Sarah a dit « Quand je me suis réveillée, papa et maman étaient partis. Il n'y avait personne pour me faire à manger ou m'habiller. »
Elle a été toute seule toute la journée, livrée à elle-même.
Elle a dit qu'elle avait dû se préparer son petit déjeuner. Et puis, qu'elle était allée dans la chambre de sa mère. Elle a dit qu'elle avait vu un homme méchant dans le lit de papa et de maman. Quand on lui a demandé de quelle couleur il était, s'il était blanc ou noir, elle a répondu de plusieurs couleurs. Les enquêteurs ont compris qu'en fait, elle décrivait sa mère couchée dans le lit, mais qu'elle ne l'avait pas reconnue à cause du coup porté à la tête.
Le lendemain matin, n'ayant pas de famille à proximité, Jim décide d'emmener Sarah chez ses grands-parents dans le Michigan. Pendant ce temps, la nouvelle du meurtre de Kathy se répand.
En 22 ans de carrière, le lieutenant a dit ne jamais avoir eu affaire à un meurtre aussi brutal. Quant aux voisins, ils vont avoir du mal à se remettre de ce meurtre choquant.
C'est des gens chaleureux et foncièrement gentils. Ils ont une petite fille adorable. C'est incompréhensible.
Cette affaire a ébranlé l'État de New York. On l'a appelé le meurtre à la hache de Brighton.
Après ça, les gens avaient peur. Ils pensaient qu'il y avait un forcené avec une hache qui s'amusait à tuer des gens.
Vu la nature de ce crime, la police pense que le tueur est une personne déséquilibrée.
Avec la médiatisation de l'affaire, la police de Brighton reçoit énormément d'appels.
On a reçu beaucoup d'appels. L'un d'eux a signalé un certain Ed Larrabee. Ed Larrabee était un repris de justice, un homme colérique, violent.
Je m'appelle Bob Napier et je suis l'avocat d'Edward Larrabee. Ce dernier avait été condamné pour plusieurs viols et avait purgé une longue peine dans une prison d'État entre 1973 et 1980.
Ed Larrabee était plus qu'un sale type. Je n'ai jamais rencontré un sociopathe qui éprouvait autant de haine envers les femmes.
À l'époque du meurtre de Kathy Krausneck, il était en liberté conditionnelle. Ed Larrabee avait commis des cambriolages par le passé. Son mode opératoire consistait à cibler des maisons de banlieue, de regarder par les fenêtres et de repérer des femmes qui étaient seules pour les agresser sexuellement et les cambrioler.
Mais le casier judiciaire d'Ed Larrabee n'est pas la seule chose qui retient l'attention de la police.
À l'époque, il habitait dans une résidence qui se trouvait à moins d'un kilomètre de Del Rio Drive, où le meurtre a été commis. Mon coéquipier s'est rendu chez lui pour l'interroger sur ses faits et gestes le jour du meurtre. Ed Larrabee a commencé à insulter et à menacer mon coéquipier. Il n'a pas du tout coopéré. On a enquêté et on a réussi à confirmer qu'il avait un travail à l'époque.
Ed Larrabee faisait de la maintenance pour des bars et des cafés, ce qui l'amenait à beaucoup se déplacer.
On a pu établir qu'il avait travaillé ce jour-là. Un collègue l'avait croisé.
Mais Larrabee avait très bien pu profiter d'un créneau pour agir pendant qu'il se rendait à son travail.
L'heure pendant laquelle il était en route pour aller de chez lui à son lieu de travail est le seul moment qu'on n'a pas pu retracer ni vérifier par un témoignage.
Mais la police n'avait aucun élément montrant qu'il aurait pu commettre le meurtre.
Il n'y avait pas d'empreinte sur la scène de crime. Et l'analyse ADN, à l'époque, on ne connaissait pas.
On ne disposait d'aucun élément reliant Larrabee à la scène du crime, hormis le fait qu'il vivait à proximité et qu'il avait déjà commis des cambriolages.
Pour qu'une personne soit suspecte, il faut des éléments de preuve probants. Et ce n'était pas le cas.
Entre-temps, une nouvelle piste apparaît sous la forme d'une lettre adressée à la police.
On a reçu une lettre anonyme, sans expéditeur ni signature, rien.
L'auteur de la lettre disait qu'il avait attendu le départ du mari pour aller sonner à la porte. La petite fille était là, mais n'avait pas pu lui ouvrir. Comme c'était un homme marié, il ne voulait pas être impliqué, mais il espérait que cette information serait utile.
Techniquement, la police n'a aucun moyen de remonter à son expéditeur. Mais cette lettre pose des questions.
La police s'est demandé ce qu'il se passait. Qui est cet homme marié? Est-ce que Cathy avait une liaison?
Les enquêteurs interrogent les proches de Cathy, dont sa meilleure amie, Gloria.
La police de Brighton m'a envoyé un enquêteur avec qui j'ai parlé pendant 1h30, 2h. Je lui ai dit tout ce que je savais sur Cathy. Une liaison, c'était n'importe quoi. Cathy était quelqu'un de fidèle et elle aimait vraiment Jim. En plus, elle ne connaissait personne. Elle n'allait pas aller voir un homme dans la rue pour lui dire « Vous ne voudriez pas être mon amant ?» Allez, c'est n'importe quoi.
Aucun de ses proches ne pensait que Cathy avait une liaison. Elle vivait là depuis très peu de temps. Les voisins n'avaient pas vu d'inconnu venir chez elle. Elle menait une vie tranquille, au dire de tous.
Gloria dit que Cathy voulait avoir un deuxième enfant, mais que Jim n'était pas d'accord.
Elle me disait que j'avais de la chance d'en avoir deux. Je lui disais, j'en veux d'autres. Elle m'a dit, super. Jim n'en veut pas d'autres. Sarah sera fille unique.
Cathy avait aussi dit à Gloria que Jim rentrait souvent du travail de mauvaise humeur. Et que la veille du meurtre, il était particulièrement de mauvaise humeur.
Quand Jim rentrait le soir, il était de mauvais poil, grognon. Le jeudi soir, on était au téléphone, et quand Jim est rentré, elle m'a dit « Je te laisse, je dois raccrocher. » Jim est rentré. Elle semblait inquiète. C'est la dernière fois que je lui ai parlé.
Les enquêteurs interrogent les collègues et les supérieurs de Jim chez Kodak.
On a appris que la semaine avant le meurtre, les ressources humaines de Kodak avaient insisté pour que Jim leur fournisse son diplôme de doctorat en économie de l'Université d'État du Colorado, conformément à son CV. Mais Jim trouvait des excuses. Le courrier n'est pas arrivé, mon référent est malade. Des tas de raisons pour ne pas fournir le diplôme à Kodak.
La police appelle l'Université d'État du Colorado et le référent de Jim lui dit que ce dernier a raté ses oraux et n'a jamais obtenu son diplôme.
Les enquêteurs découvrent également que Cathy a appelé l'université pour savoir pourquoi ce diplôme n'arrivait pas. Donc, elle croyait que Jim avait bien eu son doctorat et Jim lui avait menti à ce sujet.
On sait que Cathy se sent seule chez elle et qu'elle désire un deuxième enfant. Et elle apprend que son mari a menti pour avoir son poste. Son salaire et sa situation dépendaient de ce doctorat. Or, j'en ai parlé à des salariés de Kodak. Il risquait de perdre son poste. Il y avait déjà des tensions dans le couple, et je pense que cette semaine-là, c'était monté d'un cran.
Compte tenu de tous ces éléments, les enquêteurs réexaminent les preuves et commencent à regarder la scène de crime sous un autre angle.
On n'avait jamais vu un cambrioleur aussi soigneux. En général, les cambrioleurs retournent une maison. Ils vident les tiroirs par terre pour voir s'il y a des objets de valeur. Il restait des objets de valeur qu'un cambrioleur aurait mis dans ses poches. Ça ne ressemblait pas à un cambriolage classique.
On aurait dit une mise en scène. Et on peut se demander, pourquoi mettre en scène un cambriolage? La réponse est simple. C'est pour faire croire que c'est un intrus qui a tué Cathy alors que le meurtrier était un familier des lieux.
Quelques jours après le meurtre de Cathy Krausneck, son mari devient le suspect numéro un.
Une équipe d'enquêteurs part dans le Michigan pour réinterroger James Krausneck.
Il nous a rejoints dans notre chambre d'hôtel avec son père, Jim Senior, et son beau-frère, qui était avocat. On a discuté avec lui pendant 15 ou 20 minutes. Et son beau-frère a demandé, « Qu'avez-vous appris sur le cambriolage ?» Avant que mon collègue ou moi ayons pu répondre, Jim s'est mis en colère. « Je ne veux pas en parler, ça suffit. Je ne veux pas être mêlé à ça. » Et il a mis un terme à l'entretien.
Les enquêteurs sont surpris de la réaction de Jim. Mais n'ayant pas de preuves ni de raisons valables pour l'arrêter, ils le laissent repartir.
Quelques jours plus tard, Jim devait revoir les enquêteurs, mais à l'hôpital cette fois, pour qu'on procède à des prélèvements de sang, de cheveux et de salive sur lui et sur Sarah.
Il nous fallait ces prélèvements pour pouvoir les distinguer de ceux d'éventuels intrus.
Jim Krausneck refuse de s'y rendre. Alors les enquêteurs vont voir la famille de Cathy.
J'ai promis à ses proches que tant que je serai en vie, je ferai tout pour résoudre le meurtre de leur fille.
La police de Brighton a épuisé toutes les pistes et se sent de plus en plus dans une impasse.
On ne trouvait rien. On a passé des mois à chercher un suspect, un mobile ou une tierce personne. Que ce soit grâce aux analyses, en interrogeant des gens, en suivant toutes les pistes, ça n'a rien donné.
Je pensais souvent à elle. Je priais tous les soirs pour qu'on lui rende justice. Aux policiers, je demandais, vous poursuivez l'affaire Krausneck? Je ne voulais pas qu'on arrête.
Pendant plus de 20 ans, l'affaire piétine. Puis, en 2014, une voix du passé se manifeste.
En 2014, la police a reçu une lettre d'aveu d'Ed Larrabee dans laquelle il avoue le meurtre de Cathy Krausneck. En 2014, il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour un viol et pour tentative d'assassinat sur un gardien de prison.
Ed Larrabee venait d'avouer un autre meurtre commis en 1991. Il avait violé et étranglé Stephanie Kopczynski, une professeure de musique de 27 ans, puis il s'est débarrassé de son corps dans les bois.
J'ai passé mon bras autour de son cou. J'ai serré. Quelques minutes plus tard, c'était terminé.
Ce meurtre présentait des similitudes avec le meurtre de Cathy Krausneck. Les deux victimes étaient jeunes et séduisantes, et il s'était introduit chez elles avant de les tuer. Vu les points communs et le passé criminel violent de Larrabee, la police de Brighton accorde à cette lettre une certaine crédibilité.
En plus, l'Arabie était atteint de la maladie de Charcot et ses jours étaient comptés. Il voulait peut-être soulager sa conscience en avouant ses crimes avant de mourir.
Mais Ed L'Arabi avait un certain nombre d'exigences en échange de ses aveux.
Je m'appelle Sandra Dourly. Je suis procureure dans le comté de Monroe et j'exerce depuis plus de 31 ans. Ed L'Arabi voulait une somme d'argent pour ses enfants. Il voulait une pierre tombale. Il ne voulait pas être enterré selon les règles du système pénitentiaire. Il voulait être enterré en tant qu'homme libre.
Avant d'accepter les demandes d'Ed L'Arabi, la police de Brighton et le bureau du procureur étudient attentivement ses aveux.
Ed L'Arabi a dit qu'il travaillait, qu'il se droguait, qu'il buvait, et qu'il s'était rendu chez les Krausneck et que Cathy lui avait ouvert la porte.
Il a dit qu'ils avaient discuté. Et là, il avait décidé de la violer et de la tuer. Il l'avait violée, puis l'avait tuée avec une hache trouvée dans le garage.
Mais dans sa description de la scène et du meurtre, rien ne collait. Il a dit que c'était arrivé durant l'été 1981, que c'était une femme blanche, petite et corpulente aux cheveux bruns, qu'il l'avait agressée sexuellement, qu'il avait enlevé ses sous-vêtements. Or, ce n'est pas ce qu'il s'est passé.
Rien de ce qu'il a dit ne correspondait aux preuves recueillies sur la scène du crime. Ce n'était pas crédible, pas du tout crédible.
En fait, il a essayé de broder pour qu'on accède à ses demandes.
Quelques semaines plus tard, Ed L'Arabi meurt en prison et l'affaire Cathy Krausneck reste en suspens. Mais en 2015, l'affaire redécolle quand le FBI s'y intéresse.
Le FBI avait une équipe dédiée aux affaires non résolues, qui proposait d'aider la police à résoudre des affaires restées en suspens.
L'intérêt du FBI a réinsufflé de l'énergie dans notre service. J'avais hâte de m'y plonger pour voir ce qu'on pouvait faire.
En 1982, la police avait surtout relevé des empreintes et analysé des cheveux prélevés sur des objets. Mais son champ d'action était très limité.
Les techniques ont beaucoup évolué depuis 1982. Alors je me suis concentrée sur l'ADN. Je voulais qu'on réanalyse toutes les preuves. Je voulais savoir s'il y avait un autre profil ADN dans cette maison. Si on avait la preuve qu'un intrus était venu ce matin-là, il fallait orienter l'enquête là-dessus. Sinon, il fallait s'intéresser aux personnes du foyer.
La police et le bureau du procureur ont envoyé au FBI tous les éléments de preuve pertinents. Ils lui ont envoyé la hache et la cognée, ainsi que le sac poubelle avec l'empreinte de chaussures.
En plus des analyses ADN, les enquêteurs réexaminent le cambriolage. Ils en concluent qu'il a été mis en scène, car il défie toute logique.
La première chose qui m'a interpellé, c'est l'utilisation de la hache et de la cognée. J'avais beau réfléchir, je ne trouvais pas de raison pour laquelle un intrus aurait utilisé ces deux instruments.
Ok, il a brisé la vitre avec la cognée et l'a laissée là. Mais après avoir vu Cathy endormie, il est redescendu, est repassé devant la cognée, est allé dans le garage chercher la hache, est à nouveau repassé devant la cognée et est remonté pour lui planter la hache dans sa tête. Ça ne tient pas.
S'il s'est servi de la cognée, c'est parce que la hache n'était plus disponible, car elle était déjà plantée dans la tête de Cathy.
Le FBI envoie les résultats d'ADN trouvés sur la hache et la cognée.
Il y avait du sang séché sur la hache qui correspondait à l'ADN de Cathy. Mais il n'y avait pas d'autres profils, ni connus ni inconnus, sur les éléments analysés. Ce qui confortait la théorie qu'il n'y avait jamais eu d'intrus dans la maison.
Tout ça laissait penser que le vrai coupable était Jim Krausneck.
Ensuite, le bureau du procureur réexamine l'heure du décès.
Notre bureau a fait appel à l'un des médecins légistes les plus réputés du pays, le docteur Michael Baden, qui s'est penché sur l'affaire.
Après analyse, il estime l'heure du décès vers 3h30 du matin, soit une heure plus tôt que la première estimation.
À cette heure-là, James Krausnick était dans la maison.
On a alors décidé de réinterroger Jim Krausnick et Sarah. C'était les deux seules personnes qui savaient ce qu'il était arrivé ce matin-là.
On est le samedi 16 avril 2016. Il est 11h03. Nous allons parler avec Sarah, la fille du suspect James Krausnick.
Des enquêteurs du bureau du procureur sont allés frapper chez Sarah Krausnick. Elle ne savait pas qu'il venait.
Vous voulez bien nous raconter ce dont vous vous souvenez ?
Je me rappelle m'être réveillée. Ma chambre était en face de leur chambre, en haut de l'escalier. Je suis entrée pour prendre un mouchoir. Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai rassuré mes poupées.
Que vous a dit votre père ?
Mon père n'est pas du genre très bavard. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous pensez que votre père pourrait avouer avoir fait quelque chose qu'il regrette ?
Je n'en sais rien. Je ne peux pas concevoir qu'il ait fait une chose pareille.
Au même moment, la police de Brighton envoie deux enquêteurs chez James Krausnick.
On est allé les voir en même temps parce qu'on ne voulait pas qu'ils se concertent. On a commencé par parler de 1982 et de ce dont ils se souvenaient.
Vous avez vécu un événement traumatisant. On aimerait savoir si vous vous souvenez d'autre chose.
Ou si quelque chose vous est revenu avec le temps.
Après s'être présenté et l'avoir mis en confiance, on a changé de tactique.
Le cambriolage a été clairement mis en scène. Rien n'a été volé. C'était préparé pour la police.
Pourquoi mettre en scène un cambriolage ?
C'est pour ça qu'on est là.
C'est ce qu'on essaie de comprendre.
À votre avis, pourquoi quelqu'un aurait voulu la tuer ?
Je ne sais pas si quelqu'un voulait.
Monsieur Krausnick, vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vous étiez son mari, vous connaissiez tout de sa vie. Vous saviez tout ce qui n'allait pas dans votre couple.
Sa gestuelle. Il se balançait sur sa chaise. Il avait du mal à parler. La bouche sèche. On voyait sa salive dans les commissures de ses lèvres. Il était visiblement troublé.
J'entends ce que vous dites. Et non, je n'ai pas tué Cathy.
Je ne suis pas d'accord.
Eh bien,
je pense que si.
Je pense que vous avez vrillé. C'était un acte impulsif. Pour une raison ou une autre, vous ne vous entendiez plus avec Cathy. Elle vous poussait à bout.
Vous savez quoi ? C'est faux.
Monsieur Krausnick, je pense que vous mentez. Je le pense vraiment. Vous savez ce que vous devriez faire ? Ne pensez pas à vous. Pensez à Sarah.
Ça suffit. On arrête.
Avant ça, j'étais sûr à 97% que c'était lui. Après, j'en étais sûr à 100%.
Tout repose sur des preuves circonstancielles, et la procureure présente l'affaire devant un grand jury. Et ce dernier inculpe Jim Krausnick pour homicide involontaire.
James Krausnick Jr. s'est rendu aux autorités le vendredi 8 novembre dans le palais de justice de Rochester, où il a été inculpé d'homicide involontaire par un réquisitoire du grand jury.
J'avais des soupçons. Plus je pensais à lui, plus je me disais que c'était lui le coupable. On n'est pas censé éprouver de la joie dans un tel contexte, mais j'étais vraiment contente qu'on puisse enfin rendre justice à Cathy.
J'étais confiant. On avait des preuves. Mais on savait que ça n'allait pas être un procès facile. La bataille s'annonçait rude.
Pendant les années qui ont suivi, on a travaillé avec les enquêteurs pour préparer le dossier.
Puis, peu avant le procès, l'un des enquêteurs découvre quelque chose qui était passé inaperçu.
Juste avant le procès, quelque chose m'a poussé à reprendre les photos de la scène de crime. Il y avait une photo du sac poubelle noir avec l'empreinte de chaussure au motif caractéristique. Et il y avait une autre photo où l'on voyait les habits de Jim Krausnick et une paire de chaussures bateau au premier plan. Je me suis demandé si le motif sur le sac poubelle correspondait à ses chaussures. Comme on n'avait pas les chaussures du suspect, j'ai fait une recherche sur les semelles des chaussures bateau. Et je suis tombé sur exactement le même motif. Il ne faut pas faire appel à un expert pour comparer les deux motifs et constater qu'il s'agit d'une semelle de chaussure-bateau. Alors, j'ai contacté des proches de Jim et je leur ai demandé quelles étaient ses chaussures préférées. Et ils m'ont tous répondu la même chose, les chaussures bateau.
Fin août 2022, 40 ans après le meurtre de Kathy Krausneck, Jim Krausneck comparaît en jugement. Le père de Kathy, âgé de 94 ans, a attendu la moitié de sa vie pour vivre ce jour.
Je veux qu'on rende justice à ma fille. Et j'aimerais que ça arrive le plus vite possible. À mon âge, je ne sais pas combien de temps il me reste.
La famille de la victime était présente, sa sœur, ses cousins et son père. Ils sont venus tous les jours assister au procès.
On veut que la justice soit rendue pour ma sœur, pour Kathy, et Sarah est une victime, elle aussi. Je veux qu'elle obtienne justice. On l'aime et on a besoin d'un jugement rapide.
L'accusation expose son plan lors de son audience préliminaire.
On a commencé notre plaidoirie avec deux mots, bon sens. On savait que tout reposait sur des preuves circonstancielles. Un faisceau de présomption désignait Jim Krausneck comme l'auteur du crime. Mais est-ce que les jurés allaient se servir de leur bon sens pour parvenir à cette conclusion?
L'argument principal de l'accusation était « utilisez votre bon sens ». Mais si votre bon sens vous dit que quelqu'un est coupable, ça ne veut rien dire. Ce sont les preuves qui le démontrent. Et sans preuve directe, on est loin d'être au-delà de tout doute raisonnable.
L'accusation présente l'argument que le cambriolage a été mis en scène.
À part la vitre cassée de la porte et les objets sur le sol de la salle à manger, tout était à sa place. Ça ne ressemble pas à un cambriolage.
Nous disons que même s'il s'agit d'une mise en scène, quelqu'un d'autre a pu faire ça. Ed Larrabee s'était déjà introduit dans des maisons pour agresser des femmes. Un bon mobile pour mettre en scène un cambriolage.
L'accusation attire aussi l'attention du jury sur l'heure du décès.
L'heure du décès a toujours été cruciale dans cette affaire. James Krausneck nous avait fourni l'horaire exact de son départ au travail. Si le meurtre a été commis avant 6h30, James Krausneck était encore dans la maison.
L'heure du décès était un élément crucial. Est-ce qu'elle a été tuée avant que James Krausneck ne parte travailler ou après qu'il ne parte travailler?
Tous les éléments concordent. Ils indiquent tous les premières heures du matin. C'est ce que les preuves indiquent.
Il est très difficile, voire impossible, de déterminer l'heure du décès en examinant un dossier au bout de 35 ans.
L'accusation présente aussi l'un des arguments cruciaux contre Jim Krausneck. Le mobile.
Il y a bel et bien un mobile. L'accusé s'était bâti une vie bien réglée, avec une jolie femme, un bon travail, mais elle est basée sur un mensonge. L'accusé n'a pas eu son doctorat alors qu'il affirmait le contraire. Il savait que tout allait s'écrouler autour de lui.
Ça peut certes engendrer un sentiment d'insécurité, mais de là à ce que ça devienne un mobile, pour planter une hache dans la tête de sa femme, ça n'a aucun sens.
Enfin, l'accusation présente l'empreinte de chaussures sur le sac poubelle.
Pensez à l'époque où le cambriolage a eu lieu, au mois de février. Il a neigé. Qui commettrait un cambriolage avec des chaussures bateau?
Ils avançaient que personne n'aurait porté des mocassins, à part Jim Krausneck, qui est fan de ses chaussures. C'est de la pure spéculation, on n'en sait rien.
Après la plaidoirie de l'accusation, la défense sait que pour que l'accusé soit déclaré non coupable, il lui suffit de démontrer qu'il existe un doute raisonnable qu'il ait commis ce crime. Or, dans cette affaire, il y avait des aveux d'un autre suspect.
Edward Larrabee. Que savons-nous d'Edward Larrabee? Ed Larrabee, par le passé, avait suivi des femmes, s'était introduit chez elles et les avait violemment agressées. Nous pensons qu'il est entré dans cette maison, comme il le faisait souvent, pour attaquer Cathy.
Après 4 semaines de plaidoirie, le procès touche à sa fin et le jury se retire pour délibérer.
Je m'appelle Helen Newman. J'étais la présidente du jury lors du procès de James Krausneck. L'avenir et la vie de cet homme étaient en jeu. Donc, on ne voulait pas bâcler l'affaire. Lors de notre premier vote, certains jurés ne pouvaient pas concevoir qu'un père serait prêt à laisser sa petite fille seule toute la journée dans la maison avec sa mère déjà morte. C'est cette question qui a donné le plus de fil à retordre pour parvenir à un verdict.
Au bout de 3 jours, le jury rend son verdict.
Membre du jury, quel est votre verdict dans l'affaire du ministère public de New York contre James Krausneck, inculpé d'homicide involontaire, seule charge retenue contre lui?
Coupable. On a décidé que si un mari pouvait tuer sa femme d'une manière aussi atroce, il pouvait tout aussi bien laisser sa petite fille seule dans la maison avec sa mère morte à côté.
On a réussi. On a obtenu justice pour Cathy.
Je vais faire transférer le corps de ma fille du caveau des Krausneck pour l'enterrer auprès de sa mère et de son frère dans le Michigan.
J'étais tellement contente pour sa famille. Je me disais qu'après toutes ces années, sa famille avait enfin obtenu justice.
On nous a dit qu'on ne pouvait pas gagner une affaire après 40 ans, mais si.
Je suis contente que la famille de Cathy ait obtenu gain de cause, mais ce qui est désolant, c'est que Sarah ne saura jamais qu'elle avait une mère magnifique, qui l'aimait énormément.
Alors que beaucoup de personnes sont soulagées et ravies du verdict rendu, d'autres le sont beaucoup moins.
L'assassin de ma mère s'en sort impunément, et la vie de mon père est brisée par un système judiciaire défaillant qui l'a condamné pour un crime qu'il n'a pas commis.
40 ans après le meurtre de Cathy Krausneck, son mari, alors âgé de 70 ans, est condamné à 25 ans de prison ferme.
J'aimerais qu'elle soit là, vivante et heureuse. Elle était unique, une sorte d'ange. Ce qu'elle est maintenant, elle est enfin là-haut et j'espère qu'elle repose en paix.
La montagne a ses tiroirs secrets, elle grince, elle respire, elle range le froid dans des plis bleus et rend parfois, des années plus tard, un objet minuscule qui tient lieu de clef. Ce soir-là, le vent du massif du Mont-Blanc ressemblait à un mot de passe, un souffle qui interdit et qui invite. Une trace de pas disparaissait dans la neige soufflée. Une poignée de voix tournoyait autour de la moraine comme des lampes frontales mal réglées. Et au centre de ce bourdonnement glacial, il y avait le vide exact où l'on n'entend plus la respiration de Claire Valette. 27 ans, couette serrée sous un bonnet rouge, carnet d'itinéraire glissé dans la poche intérieure de la doudoune, une promesse de sommet et une promesse d'amour, la première énoncée au refuge l'après-midi, la seconde murmurée au téléphone public du village plus tôt, quand les nuages flottaient comme de la poussière d'ardoise. À Chamonix, on dirait qu'il n'arrive rien qui ne soit pas désormais consigné. Un sac déposé, un regard lancé, un ricanement à la terrasse d'un bar de guide, une corde sèche au soleil, tout s'écrit sans qu'on le sache. Et pourtant, ce 13 mars 1995, on a s'écrit autour de Claire la plus nette des absences. Elle est sortie, elle a salué deux étudiants allemands en route vers les Gaillans, puis plus rien. On a d'abord dit le mauvais temps, l'écharpe, le jour qui abrège. On a ensuite dit une erreur de trajectoire, un pont de neige qui cède. La gendarmerie de haute montagne a tiré ses lignes, a consulté les logbooks des refuges, a posé des questions qui tombent comme des piolets sur une dalle. Mais la montagne gardait son tiroir fermé, et dedans, avec la respiration de la glace, dormait un rectangle de papier thermique. Un reçu de taxi. Il n'y a pas d'affaire sans prologue social, pas de disparition sans décor humain. 1995, c'est un bourdonnement de téléphone à cadran qui refuse de vieillir, un Minitel posé dans un coin de salon, un poste de police où les cartes IGN pendent derrière un planton moustachu, un bar où un vieux guide parle des années 70 et d'un accident qui commençait pareil. C'est aussi la logique des refuges, des cahiers d'alpage, des lignes d'encre, des heures notées au bic, des prénoms suivis d'un descendu, d'un smonté, des messages relayés par des gardiens qui comptent l'eau chaude et la farine. Claire avait beau aimer le silence, elle traînait derrière elle une musique de prénoms. Antoine, l'homme à la voix douce, aspirant guide et fiancé en devenir. Sophie, amie d'enfance venue respirer le printemps à la vallée. Marc, photographe invétéré, qui considérait les séracs comme des statues grecques. Et autour des silhouettes qui ne seront jamais que des silhouettes, un chauffeur de taxi aux doigts cigarettés, un gardien de refuge qui mâche ses syllabes, un vendeur de cartes postales qui se souvient d'un bonnet rouge. Le récit s'ajuste sur des visages, puis les dépasse. Ce sera une histoire de patience, d'angle mort et de traces bureaucratiques. Les montagnes changent plus lentement que les hommes, mais c'est bien l'administration, un reçu froissé, des minutes de communication, qui finira par briser la glace. On l'a vu, pour la dernière fois, dit-on, s'éloigner du parking des Gaillans en fin d'après-midi, le sac trop propre pour être au retour, ce qui signifie le départ. Elle souriait à personne, c'est-à-dire à tout le monde. À 20h, le téléphone du petit appartement d'Antoine a sonné. Il dira plus tard que c'était un collègue, un guide de nuit, qui l'informait d'un changement au goûter et qu'il devait monter. À 21h30, la gardienne du Tête-Rousse note dans son cahier « Rappel d'Antoinelle. Monte demain. Voix condition. Ok. » À 22h, le brouillard pressait la ville comme un fruit mou et au bar des guides, on parlait d'un foot européen. Et au même moment, si l'on jette le filet de l'enquête comme on jette un éclairage, quelqu'un ouvrait la portière d'un taxi à Chamonix. Mais ce moment n'existera pour nous que plus tard. Il n'a pas été vu, il n'a pas été raconté, il a été enregistré par une machine qui chauffe du papier et imprime des chiffres fragiles qui s'effacent. Les disparitions, c'est comme ça. On ne sait pas qu'on vit la scène clé parce qu'on n'a pas encore appris le code qui la révèle. La première fois que j'ai posé mes doigts sur la photocopie grisâtre du reçu, la chaleur de la salle d'archives a fait remonter une odeur de téléscripteur et de vieux cahiers. Le papier disait « 22H41, départ Chamonix, 23H05, dépose les Houches, Bellevue, client, CLKOV, chauffe, de Renault. » Rien d'autre qu'un rectangle fatigué, retrouvé des années plus tard au fond d'une poche cousue d'un anorak rendu par hasard à la mère de Claire, quand la police restitua, au hasard d'un déménagement de local, un lot d'effets non probants. Non probants. L'expression, à elle seule, résume l'aveuglement. La mère, dans le geste le plus discret de toute l'affaire, a senti une épaisseur dans la doublure, a coupé un fil, a tiré sur le papier qui résistait. Et la montagne, par sa clandestinité enveloppante, recracha ainsi un indice fabriqué en plaine, au volant d'une Mercedes diesel. Ce reçu ne dit pas pourquoi Claire a pris le taxi, ni avec qui. Il dit seulement un temps, un trajet court, une direction. Il contredit une idée, celle d'une montée continue vers l'altitude. Les Houches, à cette heure, ce n'est pas un tremplin vers le sommet. C'est un rendez-vous de nuit. Nous avons alors repris tout le récit à rebours, tendu les fils entre les refuges, comparé les call notes, demandé à la gardienne du Tête-Rousse de nous déplier son cahier de mars 1995, ses dizaines d'heures annotées. C'est là que nous avons vu apparaître un autre rectangle, cette fois-ci d'encre, qui appellerait le premier comme une sœur. Deux appels tardifs entre refuges, sans demande précise, posés comme des cailloux pour marquer un chemin. On a suivi les appels comme d'autres suivent des pas. Au goûter, le gardien d'alors nous a reçus en fin d'été, dans une lumière qui rendait l'air plus fin, avec ce sourire des hommes qui ont beaucoup vu et se méfient de leurs souvenirs. Deux coupes de fil ? Oui. Je note toujours, par habitude. La nuit du 13 au 14, celui que vous nommez Antoine a appelé à 23h18, puis de nouveau à minuit moins 7. Très court. Demandes anodines, la météo, le vent, puis un « finalement je monte plus tard ». J'ai trouvé ça bizarre, j'ai écrit « inutile » dans la marge. Il nous a montré la page, un bic bleu, un trait légèrement appuyé sous le prénom. À tête rousse, la gardienne a hoché. Oui, je me souviens d'une voix qui cherchait surtout à être entendue. C'est vieux. J'ai noté parce qu'on note tout. Le détail pourtant ne voulait pas se laisser attraper. Pourquoi deux appels sans nécessité ? Et pourquoi si tard ? Et surtout, d'où ? Les refuges sont reliés par des lignes parfois capricieuses, certains passages par radio, d'autres par des relais. C'était 1995. La téléphonie basculait, mais le vieux monde retenait encore ses fils. Un bon enquêteur sait que la technique n'est jamais neutre. Le choix d'un canal raconte l'intention. Nous avons découvert que ces appels n'étaient pas nés de la montagne, mais de la plaine. Un standard local, rendez-vous de l'aiguille, permettait à certains d'acheminer des appels comme s'ils partaient d'en haut, quand ils avaient, en réalité, baptisé leur voix au pied d'un lampadaire. Dans la marge, on lit « numéro masqué ». Le mot est anachronique pour 1995, mais le geste l'est moins. Passer par un intermédiaire, maquiller l'origine, fabriquer un témoin lointain. Un alibi, posé comme on pose une pierre blanche sur un cairn. Il y a un homme, quelque part, qui a compris que la montagne blanchit les mots et nettoie les actes. Il y a un homme, peut-être, qui a cru qu'un carnet de refuge ne serait qu'un décor. L'enquête, alors, a quitté les crampons pour entrer dans le coton des intérieurs. Bureau tiède, machine à café, doigts qui feuillettent des feuilles trop minces. Nous avons retrouvé le chauffeur, des Renault, dans un pavillon gris aux rideaux tirés, un terrarium de tortues sur un meuble bas. Chamonix les Houches ? La nuit ? Oui, ça arrivait. Une jeune femme, bonnet rouge, sac propre, elle n'était pas seule. Un type aux yeux clairs, manteau vert bouteille, impatient. Je me souviens du manteau à cause d'une tache sur la manche. On les a déposés à Bellevue, pas au téléphérique, hein, fermé la nuit, mais en contrebas, près du chemin. C'était bizarre. L'homme a payé. Il a dit aussi qu'ils ont attendu, que l'homme a consulté sa montre trop souvent, que la jeune femme avait ce silence des gens qui se parlent, dans la tête à voix haute. Ce que dit un chauffeur de taxi 20 ans après ne vaut pas un PV de gendarmerie, mais ce que montre un reçu recoussu vaut un masque qu'on retire. Les heures d'appel au goûter, pour la météo, s'alignaient sur la route. 23h18, 00h, 7, exactement dans la tranche où un homme qui se dit déjà en altitude a, en réalité, le nez contre la vitre d'une berline.
Quand on met côte à côte un rectangle thermique et deux lignes de bic, le récit prend une couleur. Il devient possible de raconter la nuit de Claire sans la profaner, avec la stricte précision qu'exige la vérité. Elle n'est pas montée là-haut, oh, comme on l'a imaginé. Elle a été détournée. Pourquoi ? Il faut pour cela s'aventurer du côté des passions humaines,
là où les montagnes ne servent que de décor à nos scénarios. Antoine aimait Claire de cette manière que seuls les hommes convaincus d'être exceptionnels se permettent, avec la certitude d'avoir raison sur l'itinéraire, sur le matériel, sur leur vie fusionnée. Il préparait son diplôme d'aspi, il avait un agenda de saison, des clients qui lui confia la peau sur la neige, des dettes aussi, et ce projet abstrait qui s'appelle « devenir quelqu'un ». Parfois, devenir quelqu'un exige de faire disparaître quelque chose. Il avait aussi une liaison ancienne, pas tout à fait rompue, avec une femme qui tenait un petit restaurant aux Houches, tout près du chemin où l'on vous a déposé. Cela, nous ne l'avons pas deviné. Ce sont les tickets de caisse d'un débit de boisson qui l'ont murmuré, posés au dos d'un dossier sans importance. La nuit du 13, un rhum, deux cafés, la caisse ferme tard. Le roman policier adore les coïncidences. L'enquête judiciaire, elle, les dissout jusqu'à ce qu'il ne reste que des recoupements. Le plus fragile dans cette histoire, ce sont les mots de Sophie, l'amie, qui a livré un souvenir qui a l'air de rien et pèse mille. Claire m'avait dit qu'elle devait régler quelque chose avec Antoine avant de partir sur une grande course. Elle n'a pas précisé. Elle a ajouté « S'il insiste pour que je passe aux Houches, j'irai, mais je reprendrai ensuite la navette tôt. » La navette n'existait pas à cette heure-là. Le taxi, oui. Et cette phrase « il insiste » a le goût d'un consentement ployé. Alors la nuit s'est recomposée, un rendez-vous aux belles vues, un ancien amour qui sert de paravent, un détour, une dispute peut-être, une conséquence lourde. Je voudrais ne pas écrire la violence, la garder à distance, la laisser hors champ. Mais on ne réconcilie pas l'heure du taxi et les appels prétendument haletants du haut de la montagne sans y voir un plan. Ce plan n'est pas sophistiqué, il est simplement tissé comme le sont toutes les machinations, avec du quotidien mal repassé. Appeler deux refuges pour figer son nom dans un livre, attirer la femme qu'on ne veut plus voir libre sur un chemin désert, croire que la neige avalera le reste. Quand fondent les neiges, elles parlent. L'été 2002 a découvert, en aval d'une barre rocheuse près de la forêt des Chavans, un morceau de tissu, un œillet de chaussure, une boucle. Les gendarmes ont ramassé, ont consigné, ont consulté. L'ADN, à l'époque, n'était pas l'outil absolu qu'il est devenu, mais on savait déjà lire sur la matière. La probabilité de rattachement à Claire a poussé les volets à claquer dans plusieurs têtes. Mais même une preuve a besoin d'une histoire pour prendre place. Et l'histoire, on n'a pu la narrer qu'en calant le reçu sous un poids de verre et en traçant une flèche entre les coups de fil des refuges. À partir de là, la procédure a lissé ses pages. Prenez acte que M. Antoine L. se trouvait, selon ses dires, au goûter à 23h18. Prenez acte que ledit monsieur payait un rhum vers 23h30 aux Houches. Prenez acte qu'un taxi déposait une jeune femme et un homme à 23h05 à Bellevue. Confronté, observé. Il faut du courage pour dire « je me suis trompé ». Il faut autre chose pour dire « j'ai menti ». Et parfois, on n'obtient ni l'un ni l'autre. On obtient des silences, des gestes d'épaule, des regards qui s'arrondissent. On forge alors la vérité avec autre chose, des papiers administratifs, des horaires, des journaux de refuge. Ce qui a fait basculer l'affaire n'est pas tant l'addition des indices que leur musique. Le juge d'instruction a ordonné une reconstitution, et durant la nuit choisie, on a posé un peu partout des hommes à carnet. Au bar des Houches, sur le chemin de Bellevue, à la barrière du parking, au téléphone du tête-rousse, devant la porte du goûter. Aux heures exactes des appels, aucun souffle à la radio du refuge. En revanche, le combiné d'un standard privé vibrait au rez-de-chaussée d'une maison du village, celle-là même où l'on servait le rhum de 23h30. Testez mille fois l'improbable. Vous finirez par admettre le plausible. Ce plausible portait un manteau vert bouteille. La gardienne du tête-rousse, dans une phrase qui a éclairé toute la pièce, a dit « Ce soir-là, j'ai noté inutile et j'ai tracé un trait sous le prénom. Je fais ça quand je sens qu'on me fabrique un souvenir. » Fabriquer un souvenir, c'est l'autre nom de l'alibi. Il y a, à ce point du récit, la tentation de la vengeance, de nommer, de clouer, de brandir le papier thermique comme un fer rouge. Ce serait moins que la justice, ce serait un soulagement. Mais ce que nous cherchons ici, c'est la ligne qui relie la topographie humaine à la topographie des lieux. Ce que disent le reçu et les appels, c'est qu'on a voulu superposer un faux récit au relief, et que le relief n'a pas consenti. Claire, elle, n'a rien fait pour disparaître. Elle a suivi, hésité, voulu repartir à l'aube. Peut-être a-t-elle reculé devant la falaise des mots d'Antoine, peut-être a-t-elle compris trop tard que son absence était devenue un projet. L'enquête ne peut pas écrire ce qui n'a pas laissé de traces. Elle peut en revanche dire la structure de la nuit. Une voiture, un arrêt, un chemin, un second arrêt, un geste, une chute, un déséquilibre. Ce ne sont pas les jurés qui le diront, ce sera la patience des fouilles et l'acharnement des recoupements. Et à l'instant où l'on superpose les heures au paysage, où l'on fait coïncider l'encre et le givre, l'affaire cesse d'être une devinette. Elle devient une phrase. On sait, depuis les grandes affaires du siècle, de l'ombre de Dominici aux variations autour des dossiers de disparition en montagne, qu'un détail apparemment trivial peut déplacer l'axe d'un drame. Ici, ce détail est double, presque modeste. Un reçu oublié cousu dans une poche par une main qui voulait réparer un ourlet et deux coups de fil notés par des gardiens qui n'ont jamais imaginé qu'on écrirait sur eux. Le monde tient grâce à ses scrupules. On note, on garde, on recoue. Les ordres de grandeur sont infidèles, les passions humaines sont rétives, mais un numéro d'horodatage, une signature de chauffeur, un big bleu sur une ligne datée, cela ne tremble pas autant que la voix d'un homme mis en cause. Alors la justice allait avancer, à pas lents, dans la neige hissée au niveau des yeux. Elle a accepté que l'on travaille avec la matière la plus humble. Et au bout, il y a eu un geste. Un procureur qui tend une feuille en disant « C'était la même heure, vous comprenez ?» Un avocat qui soupire, un silence qui ne reconnaît rien, mais qui n'efface plus. Quand, plus tard, la mère de Claire est venue au pied des Gaillans, elle a posé à même la pierre le bonnet rouge qu'on lui avait rendu et le papier maintenant plastifié. « Ce n'est pas une tombe, » a-t-elle dit, « c'est un endroit où je peux poser les mots. » Les montagnes ne pardonnent ni n'accusent. Elles retiennent, elles rendent. L'affaire Claire Valette n'a pas connu de confession spectaculaire. Elle n'a pas offert le théâtre d'un mea culpa sous les flashs. Elle a offert autre chose, plus exigeant, moins spectaculaire. La confrontation obstinée d'un plan avec des faits. Et c'est cela qui, finalement, nous laisse trembler et penser. La vérité humaine n'a pas l'éloquence d'un sommet. Elle a l'allure d'un reçu froissé et d'une ligne d'encre, de choses qui ne devraient pas survivre au temps, et qui, pourtant, tiennent bon comme des pitons invisibles sur lesquels on peut se vacher pour raconter, sans bruit, comment une nuit de 1995 a cessé d'être une énigme. Il reste à dire, avec la sobriété qu'impose la mémoire, comment la vieille mécanique des souvenirs a craqué là où on ne l'attendait pas. Une salariée saisonnière du rendez-vous de l'aiguille, le standard par lequel on pouvait, depuis la vallée, joindre les refuges, a un jour, des années plus tard, trié des cartons et trouvé un double de facturation oublié pour le mois de mars 1995. On y lisait, en écriture penchée, les appels retransmis. 13, 03, 23, art, 18, tête rousse goûtée, demande météo, voix homme. 13, 03, 23, 53, tête rousse goûtée, dit monte de main. La mention, tête rousse goûtée, ne prouvait pas que l'appel venait du tête rousse. Elle prouvait que le standard avait acheminé une communication comme si. Cette « comme si » a fait sauter la charnière. On a compris que l'objet même de ces appels était leur existence, pas leur contenu. Et pour une fois, l'existence prouvée d'un geste fut le révélateur d'une absence, celle d'Antoine Lahaut. Ce morceau de papier, jumeau lointain du reçu de taxi, a fermé la main de la justice sur la poignée. On aime dire, dans les drames de montagne, que « la corde a parlé ». Ici, ce sont les papiers qui ont parlé. Alors, on a fait la chose la plus simple et la plus noble. On a replacé chaque chose à l'heure. On a reconstruit avec la cadence d'un métronome. 22h41, montée dans le taxi à Chamonix. 23h05, dépose à Bellevue. 23h18, appel, depuis, tête rousse vers le goûter. 23h30, 23h40, passage au bar des Houches. Consommation, témoignage convergent de deux habitués. 23h53. Second appel, minuit 20, rien. La montagne ne prouve pas, elle constate. Au-dessus de tout, glace et granit. Au-dessous, hommes et leur théâtre. Nous avons tourné autour de ce cadran comme on tourne autour d'une crevasse, avec prudence, en posant des cordelettes. Et de fil en fil, nous avons trouvé l'endroit où ça cède. L'idée que l'amour protège de la responsabilité. Non, l'amour n'absout pas la mise en scène. Et la mise en scène ne résiste pas à la chronologie. Je n'ai pas la prétention de vous offrir un coup de théâtre en dernier paragraphe, ni un nom hurlé comme un verdict. Je veux seulement déposer, en vrac mais ordonné, ce qui nous reste de nuit et d'encre. Il y a un reçu, cousu par l'oubli, rendu par une mère. Il y a deux appels, notés par un souci du métier, rendu par un hasard de tri. Il y a un taxi, un manteau vert, un bonnet rouge, une marche froide. Il y a, en arrière-plan, des années de patience, des lettres administratives, des témoignages qui hésitent, une reconstitution silencieuse où la vallée a tenu son souffle. Et il y a surtout, à la fin, ce que la montagne nous oblige à penser de nous. Que nous sommes fragiles, et qu'à la fin, ce sont les plus fragiles des choses. Un papier qui s'efface, une encre de cahier, la mémoire d'une gardienne, qui peuvent le mieux nous tenir tête. Si l'on veut du grandiose, on lève les yeux. Si l'on veut de la justice, on baisse la tête sur un bureau, on lise et on relise. On écoute le froissement d'un reçu qui dit « il n'était pas là » et le glissement d'un stylo qui dit « il voulait qu'on s'en souvienne ». C'est ainsi que la disparition de 1995 a cessé d'être une formule et est devenue, dans sa rude clarté, une vérité. Le brouillard n'est jamais innocent dans une affaire de disparition. Il recouvre, il efface, il offre au coupable le luxe d'un rideau naturel. Dans la vallée, ce soir de mars 1995, le voile blanc tombait sur les toits de tôle et sur les lampadaires jaunes comme une main mouillée sur une bouche qui crie. Et dans ce rideau se jouait la partie la plus trouble de l'histoire. La substitution du réel par un récit fabriqué. Chaque pas de Claire devait être simple. Chaque détour s'est transformé en piège. Les enquêteurs d'alors ont d'abord voulu lire le brouillard comme on lit une fatalité. Elle s'est perdue. Mais il y a des pertes qui ne sont pas des hasards, et ce qui ressemble à une tragédie naturelle cache souvent une intention humaine. La montagne, cette nuit-là, fut moins une ennemie qu'un complice passif, utilisé comme théâtre et justification, comme un alibi minéral dont on abuse. La clé, on le comprendra bien plus tard, était cette insistance presque maladive d'Antoine à téléphoner au refuge. Il n'avait pas besoin de savoir la météo à deux reprises en moins d'une heure. Il avait besoin de déposer une trace, comme on dépose un caillou sur un sentier. Les carnets de refuge, pour les alpinistes, sont ce que sont les registres d'hôtel pour les voyageurs. Un passage à l'écrit qui atteste de l'existence. Il savait que l'écriture sur le cahier du gardien valait certificat de présence. Mais ces certificats improvisés n'étaient qu'une toile tendue pour masquer une absence réelle. Un homme absent du sommet mais présent dans la vallée devait inventer la distance qui le blanchirait. Ce que l'on ignore souvent, c'est la fragilité technique des communications en 1995. Les standards privés comme celui du « rendez-vous de l'aiguille » permettaient d'acheminer des appels et de les requalifier comme venant d'un autre poste. On entrait dans la cabine, on dictait le numéro du refuge et le système envoyait le signal comme s'il émanait d'en haut. Pour qui voulait se fabriquer une présence en altitude alors qu'il était planté sur le bitume, le procédé était aussi banal qu'un ticket de train composté. Il fallait juste connaître le relais. Antoine connaissait. Il en avait même parlé, sans s'en douter, à un camarade de promotion. « Tu sais, on peut faire croire qu'on appelle de n'importe où, suffit de passer par le relais. » Ce camarade ne s'en rappela que bien plus tard, quand on lui tendit la feuille de facturation retrouvée dans les cartons. Comme souvent dans les affaires criminelles, les confidences insignifiantes deviennent, rétrospectivement, des preuves accablantes. Mais la disparition de Claire n'est pas seulement une affaire d'horaire et de câbles téléphoniques. C'est une affaire de chair, de regard, de tensions accumulées. Antoine avait construit avec elle une relation verticale. Il voulait être le sommet, elle devait être la cordée qui suit. Elle, passionnée mais indépendante, rêvait d'une autonomie de grimpeuse, d'un métier loin de la tutelle. Leurs amis racontaient des disputes discrètes, jamais violentes en apparence, mais toujours marquées par ce ton péremptoire qui transforme la tendresse en commandement. Ce soir-là, dans le taxi, les gestes parlaient. Un manteau vert bouteille, une montre consultée comme si chaque minute décidait de la suite, un silence tendu d'elle qui murmurait déjà une opposition. Les témoignages du chauffeur, même 20 ans plus tard, vibraient d'une tension sourde. On aurait dit qu'ils ne se rendaient pas au même endroit. Chacun avait une destination différente dans la tête. Aux Ouches, au pied du téléphérique endormi, le paysage ressemblait à une gare fantôme. Tout était fermé, les chalets plongés dans le sommeil. Déposer quelqu'un là, à 23 heures passées, n'avait rien de normal. On ne monte pas en refuge à cette heure. On attend quelqu'un, on règle quelque chose. Antoine avait parlé d'une ancienne amie, rencontrée brièvement. On découvrira, en feuilletant les livres de caisse d'un petit bistrot, que cette ancienne amie n'avait rien d'accidentel. Le rhum noté à 23h30 correspondait à leur présence. Le serveur s'en souvenait. Un homme nerveux qui éteignait sa cigarette à moitié, une femme qui fixait le sol. Mais Claire, elle, n'était pas entrée. Seul Antoine et la femme du bar avaient partagé le verre. Claire avait attendu dehors, assise sur une barrière métallique, bonnet tiré jusqu'aux yeux. Cette scène reconstituée a le goût d'un abandon. On imagine alors le retour à pied, le chemin qui serpente, les pas inégaux. Il est probable que la discussion ait éclaté là, loin des témoins, dans le froissement des arbres. Les enquêteurs ne trouveront jamais de traces directes, ni sang ni armes. Mais le corps humain, jeté contre la roche ou glissant sur un talus glacé, ne laisse pas toujours d'évidence lisible. Le lendemain, personne ne vit clair. Antoine, lui, continua d'agir comme si de rien n'était. Il monta au refuge 2 jours plus tard, salua des connaissances, parla de sa compagne partie ailleurs. La disparition fut signalée tardivement, quand Sophie, l'amie, s'inquiéta de ne pas voir Claire revenir à Paris. L'alerte se perdit d'abord dans la masse de disparitions banales. Une adulte, libre de ses mouvements, qui a pu changer d'avis. Mais les montagnes ne pardonnent pas ce genre de flottement. Chaque jour passé réduit la probabilité d'une recherche efficace. Pendant des années, le dossier dormit. On accumula des témoignages imprécis, on nota les incohérences d'Antoine sans jamais les pousser à bout. Puis vint l'ère des archives numériques. On entreprit de vider des locaux, de scanner des piles de dossiers, et c'est dans ce mouvement administratif sans lien avec la passion ni la mémoire qu'on découvrit les pièces oubliées, le reçu de taxis cousus dans la doublure, les facturations du standard. Le hasard administratif, comme une main de fer, réveilla la montagne. Et soudain, les nuits de mars 1995 se mirent à parler. Le récit changea de contour. Ce n'était plus l'alpiniste englouti par un glacier, mais la jeune femme détournée par l'homme qu'elle aimait, piégée dans une mise en scène où chaque détail avait été conçu pour l'effacer. À partir de là, tout devint plus net. Les enquêteurs reprirent les relevés horaires comme on étale une carte. Les minutes s'alignèrent, les incohérences devinrent des falaises. Le taxi de 22H41 ne pouvait se concilier avec le coup de fil du goûter à 23H18. La consommation au bar ne pouvait coïncider avec la prétendue progression sur la neige. Le corps retrouvé bien plus tard, en demi-lieu, au pied des Chavans, confirma la topographie du drame. Elle n'avait jamais atteint l'altitude prévue. Elle avait chuté ici dans la forêt, loin des glaciers. Le brouillard avait couvert la scène, la bureaucratie avait couvert la vérité. Mais la persistance des papiers avait tout rouvert. C'est là que la justice toucha à l'essentiel. La fabrication d'un alibi est une architecture fragile. Il suffit d'un fil tiré, un reçu, un horaire, un mot inutile dans une marge pour que toute la construction s'effondre. Ce fil, c'était le taxi. Ce fil, c'était aussi la voix notée par un gardien qui, par déontologie, écrivait tout, même ce qui ne servait à rien. Ce fil, c'était enfin le souvenir d'une amie qui, dans une confidence d'avant le drame, avait entendu « il insiste ». Trois fils fragiles qui, tressés, formèrent une corde plus solide que les mensonges. Et quand cette corde se tendit, on comprit que Claire n'était pas morte de la montagne. Elle était morte de l'entêtement d'un homme, de la jalousie mal recousue, d'une volonté de dominer qui s'était travestie en accident. Le brouillard, alors, changea de sens. Il n'était plus complice. Il devenait témoin. Un témoin muet qui avait tout vu, tout recouvert, et qui, grâce à la ténacité des papiers, fut contraint de livrer son secret. Il y a dans les enquêtes criminelles une lenteur volontaire, presque provocatrice, comme si la vérité refusait de se livrer autrement que par couches successives. L'affaire Claire Valette ne fit pas exception. Des années durant, elle dormit au rythme des classeurs poussiéreux, des notes éparpillées, des gendarmes mutés qui transmettaient des dossiers incomplets comme des torches vacillantes. Pourtant, chaque fois qu'un nouvel œil se penchait sur l'affaire, Il butait sur la même dissonance. Les heures. Rien n'est plus têtu qu'une horloge. Et rien n'est plus compromettant qu'un homme qui pense pouvoir se jouer du temps. Antoine avait construit un récit vertical, un itinéraire imaginaire gravissant les refuges, mais il oublia que les minutes ne mentent pas. Les enquêteurs d'expérience le savent. Le temps, c'est le meilleur témoin. Il ne se laisse jamais intimider. Ce fut un jeune substitut du parquet, en stage à Bonneville, qui réunit pour la première fois les pièces discordantes comme on assemble un puzzle resté dans sa boîte. Il traça au crayon rouge une ligne continue entre le ticket de taxi, les deux appels au refuge et la note de caisse du bar. Cette ligne formait un Z, une sorte de zigzag temporel impossible. Soit Antoine était ubiquitaire, soit il mentait. Le substitut nota dans la marge « hypothèse de double localisation, mensonge probable ». Ce mot « probable » marqua un tournant. Jusqu'alors, on se contentait d'incertitude. L'enquête reprit avec la gravité qu'elle n'avait jamais eue. La famille de Claire, qui avait vécu 9 ans d'attente et de rumeurs, fut convoquée. La mère, toujours droite, posa le bonnet rouge sur la table du bureau du juge comme une pièce à conviction. « Ce bonnet a plus de mémoire que vos procès-verbaux », dit-elle d'une voix blanche. Elle avait raison. L'objet rescapé, le tissu qui avait survécu à l'humidité, rappelait que derrière les chiffres et les papiers, il y avait une vie brisée. Le juge sentit, à cet instant, que l'affaire devait dépasser le simple registre des disparitions en montagne. Il s'agissait d'un homicide déguisé. La montagne n'était qu'un écran. L'instruction se tourna vers le cercle intime. Les amis décrivirent un Antoine obsessionnel, contrôlant jusqu'aux détails les plus banals. Marc, le photographe, se souvint d'une phrase prononcée quelques jours avant le drame. « Avec moi, elle n'a pas besoin d'autre horizon. » Une phrase qui, relue à la lumière des faits, sonnait comme une condamnation. Sophie, l'amie d'enfance, répéta devant les enquêteurs ce qu'elle avait déjà confié. Claire avait parlé d'un « rendez-vous imposé aux houches ». Chaque mot résonnait comme un écho sinistre. Mais Antoine, convoqué, garda sa ligne. Il n'y a. Sa voix posée répétait les mêmes séquences, comme un guide qui récite un itinéraire par cœur. J'étais au goûter. Je me préparais. J'ai appelé pour vérifier la météo. Elle devait me rejoindre plus tard. Mais le reçu de taxi disait l'inverse, et les gardiens confirmaient que les appels n'avaient aucun sens pratique. La contradiction s'épaississait comme une paroi de glace fissurée. Elle allait céder. C'est alors qu'apparut une pièce supplémentaire, presque banale, une photographie. Marc, le photographe, fouillant dans ses pellicules oubliées, retrouva une série de clichés pris ce même mois. Sur l'un d'eux, dans un coin de cadre, apparaissait un manteau vert bouteille, reconnaissable à sa tache sombre sur la manche. Or, cette photo était datée, avec certitude, de la soirée du 13 mars, au Houché, devant le bistrot. Antoine affirmait être déjà en altitude, l'image comme un miroir cruel le clouait en bas. La photo, ce témoin muet, venait rejoindre le reçu et les appels pour composer une triangulation implacable. Les magistrats savaient désormais que la vérité se trouvait là, entre les Houches et la forêt des Chavans. La découverte, en 2002, des fragments du corps confirmait la géographie. L'autopsie tardive, limitée par la dégradation, ne livra pas de cause formelle, mais les fractures concordaient avec une chute ou une poussée violente. Rien n'excluait une main humaine. Et dans les yeux des enquêteurs, une certitude se forma. Claire n'avait pas glissé par hasard. La société, elle, suivait l'affaire avec une attention trouble. Les journaux locaux en firent leurs unes, rappelant d'autres drames de montagne, mêlant l'accidentel et le criminel. Mais cette histoire avait une différence. Elle ne parlait pas seulement de fatalité alpine, elle parlait d'un amour transformé en piège. Les lecteurs frissonnaient moins devant les glaciers que devant la banalité du contrôle, cette domination douce qui devient fatale. C'est là que le récit cessa d'être seulement judiciaire pour devenir moral. Les magistrats durent pourtant faire face à un obstacle, l'absence de confession. Antoine, malgré l'évidence, continua de nier. Or, dans le droit, la vérité ne se suffit pas à elle-même. Il faut la démontrer, la rendre indiscutable. Les juges alignèrent donc les papiers comme des pierres, reçus de taxi, notes de refuge, facturations de standard, photos de bistrot. Chaque pièce, isolée, semblait fragile. Ensemble, elles formaient un mur. Dans la salle d'audience, quelques années plus tard, l'atmosphère était glaciale. La montagne était descendue entre les murs. Silence coupant, regards fixés comme des crampons. La mère de Claire tenait son bonnet, les doigts crispés. Le président énuméra les preuves, une à une. À chaque lecture, le récit d'Antoine s'effritait, et quand fut projetée la photo, un souffle parcourut la salle. On entendit la phrase du président. « Vous ne pouviez pas être là-haut et en bas au même moment. » Cette phrase, simple, réduisit en poussière des années de mensonges. L'audience ne fut pas une explosion, mais une lente asphyxie, celle d'un homme enfermé dans ses contradictions. Les spectateurs sortirent avec une impression étrange. Ce n'était pas la montagne qui avait tué, c'était l'orgueil. Et cet orgueil avait cru que le brouillard, les rochers et le temps suffiraient à effacer une femme. Mais rien n'efface ce que l'on note, ce que l'on garde, ce que l'on photographie par hasard. Claire Valette, par ses fragments, par ses papiers, par cette photo, avait repris voix. Et dans le silence final de l'audience, une vérité s'imposa, tranchante comme une lame de glace. Ce n'est pas le sommet qui a manqué à Claire, c'est la justice des hommes. Et cette justice, enfin, venait d'ouvrir ses yeux. Il existe dans chaque affaire criminelle un point de bascule, un instant où l'ombre cesse de masquer et commence à révéler. Pour la disparition de Claire, ce point fut atteint lorsque l'ensemble des preuves matérielles, reçues, appels, photos, fut aligné comme des pierres de guet sur lesquelles plus personne ne pouvait trébucher. Jusque-là, l'argument de l'accident restait crédible. La montagne, la neige, les crevasses avaient bon dos. Mais dès lors que la topographie des papiers s'opposait à celle des alibis, le décor alpin s'effaçait pour laisser place au visage d'un crime prémédité. L'illusion d'un accident s'effondra. Dans le bureau du juge, les enquêteurs reconstruisirent la nuit du 13 mars minute par minute comme un film au ralenti. 22h41, taxi à Chamonix, 23h05, arrivé à Bellevue. 23h18, premier appel, présenté comme venant du Tête Rousse mais déclenché depuis la vallée. 23h30, consommation au bistrot, photographié par hasard. 23h53, second appel, toujours depuis le relais du rendez-vous de l'aiguille. Puis, le vide. Entre minuit et l'aube, plus aucune trace, plus aucune voix. Dans ce silence, il fallait placer la dernière présence de Claire. Le corps retrouvé, 7 ans plus tard, au pied des chavans, confirmait le périmètre. L'heure et le lieu dessinaient un rectangle implacable. Claire n'avait pas disparu en altitude, mais ici, dans la vallée, sous le masque d'un brouillard nocturne. À mesure que l'on avançait, le profil psychologique d'Antoine s'assombrissait. Derrière le masque du guide ambitieux apparaissait un homme, crispé sur sa domination, incapable d'accepter l'indépendance de celle qu'il aimait. Un expert psychiatre, consulté, parla d'une personnalité à traits possessifs, portée à manipuler la réalité pour garder la maîtrise. Antoine ne tuait pas par pulsion, mais par cohérence. Il ne supportait pas l'idée que Claire échappe à son itinéraire. Le crime, dans cette hypothèse, devenait une ultime tentative de garder la main, quitte à effacer totalement la présence de l'autre. La salle d'audience, des années plus tard, résonna de cette analyse glaçante. Les jurés, alignés comme une cordée sur une arête, écoutaient le récit des experts. Chaque mot pesait comme une pierre. Le président rappelait la force des coïncidences. Peut-on croire au hasard d'un taxi, d'une photo et d'une facturation qui convergent tous vers vous, monsieur ? Antoine, figé, continua de nier, mais sa voix sonnait creuse. Le brouillard qu'il avait voulu ériger se dissipait sous les projecteurs judiciaires. Pour la famille de Claire, ces révélations étaient à la fois un soulagement et une torture. Soulagement de voir l'hypothèse de l'accident balayée. Torture de devoir imaginer la scène exacte, cette marche nocturne, ce moment de bascule où la dispute a pu devenir fatalité. La mère, les mains serrées autour du bonnet rouge, fixait Antoine sans un mot. Son silence était plus dur que toutes les accusations. Mais au-delà du procès, cette affaire interrogea la société tout entière. Comment un homme a-t-il pu croire qu'en fabriquant quelques traces écrites, il pouvait dominer le temps et tromper la mémoire collective ? Comment un amour, ou ce qui prétendait en être, a-t-il pu se transformer en projet d'effacement? Les journalistes évoquèrent d'autres affaires où des conjoints avaient maquillé l'accident, des naufrages domestiques camouflés en fatalité naturelle. La montagne, ici, avait servi de décor commode, mais le ressort était universel. La peur de perdre l'autre, pervertie en volonté de l'anéantir. L'instruction poursuivit son chemin, implacable. Les témoins furent rappelés. Le chauffeur de taxi, les gardiens des refuges, le serveur du bistrot. Tous confirmèrent leurs souvenirs. Même fragiles, même vieux de plusieurs années, ils dessinaient la même figure. Antoine, à chaque fois, essayait de fissurer leur mémoire. « Vous êtes sûr de l'heure ? Vous êtes sûr de la personne ?» Mais face au papier conservé, aux notes manuscrites, à la photo, ces tentatives s'écrasaient. La mémoire humaine vacille, mais l'encre et le papier, eux, persistent. Le verdict, quand il tomba, ne fut pas un cri. Ce fut une lame lente, froide, coupable, non pas d'un accident mal géré, mais d'un homicide maquillé. La montagne n'avait pas pris clair. C'était lui. L'audience se vida dans un silence d'église. Personne ne se réjouissait, car un verdict ne rend pas une vie. Mais la justice, au moins, avait refusé d'entériner le mensonge. Et dans la vallée, longtemps saut après, on continua de raconter cette histoire, non comme un simple drame d'alpinisme, mais comme une parabole. La vérité n'est pas toujours gravée dans la roche, mais parfois dans la fragilité d'un reçu oublié, d'un appel noté par habitude, d'une photo prise par hasard. Trois fragments plus légers qu'une plume avaient suffi à fissurer le mur de brouillard et à révéler l'abîme. La disparition de Claire devenait alors autre chose qu'un fait divers. Une leçon sur l'orgueil humain, sur la patience des archives, sur la manière dont la vérité se faufile par les interstices les plus infimes. Et à chaque fois que le brouillard redescendait sur Chamonix, certains habitants murmuraient que ce voile n'était plus seulement un décor naturel, mais la mémoire vivante d'un crime déjoué. Le silence des montagnes est trompeur. On croit qu'il protège, qu'il apaise, mais en vérité, il conserve, comme une crypte de glace, tout ce que l'homme voudrait effacer. Après le verdict, quand la voix du président du tribunal se fut éteinte, le calme de la salle ne ressemblait pas à une délivrance. C'était un silence lourd, identique à celui qui règne au sommet avant l'orage. Antoine, raide, encaissait la sentence, mais son mutisme n'avait rien de noble. C'était le mutisme de celui qui, jusqu'au bout, espère que le brouillard retombera pour le couvrir. Mais cette fois, le brouillard était tombé sur lui seul. Les journalistes consignèrent l'affaire avec un mélange d'effroi et de fascination. La montagne comme décor d'un meurtre intime, titra l'un. Le faux alibi des refuges, écrivit un autre. Chaque article rappelait combien les détails administratifs avaient joué un rôle central. Dans un monde obsédé par les aveux spectaculaires, c'était la modestie d'un ticket, d'une note manuscrite, d'une photo de hasard qui avait parlé. Une journaliste osa une métaphore frappante. La vérité, dans cette affaire, n'était pas dans les glaciers, mais dans les poches de papier. La phrase fit le tour de la presse, et nombre de lecteurs y virent une leçon universelle. Rien de ce que nous laissons derrière nous n'est insignifiant. Pour la famille de Claire, pourtant, le temps du procès ne fut pas le temps de la guérison. Sa mère, en serrant le bonnet rouge, se répétait que ce bonnet avait vu les dernières minutes de sa fille. Elle le lavait parfois, puis le reposait, comme si elle voulait effacer la nuit, mais que la laine s'y accrochait toujours. Les proches évoquaient le souvenir d'une jeune femme, passionnée de nature, capable de marcher des heures pour voir un lever de soleil, et l'ironie cruelle d'une fin arrachée dans l'ombre, sans horizon. La montagne, qu'elle aimait, avait été utilisée contre elle, transformée en écran de mensonges. Les enquêteurs, eux, prenaient cette affaire comme un avertissement. Ils rappelaient d'autres dossiers où la nature avait servi de camouflage. Des noyades présentées comme accidents, des incendies maquillant des violences domestiques. La montagne, avec son silence et ses gouffres, avait offert à Antoine une scène idéale. Mais c'est la ténacité de quelques hommes et femmes de loi qui avaient refusé ce camouflage. Un officier déclara un jour « Nous n'avons pas vaincu la montagne, nous avons vaincu le mensonge. » Et pourtant, dans les archives judiciaires, un détail continua de hanter. La scène exacte de la mort de Claire restait inconnue. chute provoquée, poussée volontaire, dispute qui dégénère, rien ne permettait de la fixer. Les fractures du squelette ne parlaient pas assez. Ce vide devenait presque philosophique. On savait qui, on savait pourquoi, mais on ne saurait jamais comment. L'humanité de Claire, sa dernière respiration, restait voilée, comme si la montagne avait voulu garder pour elle ce secret. Cela rappelait à tous la limite des enquêtes. La vérité judiciaire se construit sur des preuves, mais la vérité intime reste souvent ensevelie. Dans les années qui suivirent, les habitants de Chamonix racontaient encore l'affaire aux nouveaux venus. Certains disaient que la montagne avait rendu justice en restituant des morceaux du corps. D'autres voyaient dans la découverte du reçu et des facturations un signe du destin, comme si le hasard avait décidé de parler. Mais tous convenaient que l'affaire avait changé leur regard sur les disparitions. Plus personne ne parlait d'accident sans prudence. Le doute, désormais, accompagnait chaque histoire de randonneur manquant. À Paris, dans les cercles d'alpinistes, le nom de Claire devint une sorte de légende triste. On évoquait son sourire, sa passion, et on la plaçait aux côtés d'autres figures englouties par la montagne. Mais avec une nuance terrible, elle n'avait pas été vaincue par la glace, mais par la main d'un homme. Cette nuance glaçait davantage que tous les récits de crevasses, car elle rappelait que le danger le plus proche n'était pas toujours la paroi, mais parfois celui qui marche à nos côtés. Dans un dernier geste de mémoire, sa mère fit graver une plaque discrète près du sentier des Gaillans. Claire Valette, 1951-1995. La vérité n'a pas de sommet. Les randonneurs s'y arrêtaient parfois, posaient une fleur, prenaient une photo. La plaque devint un point de méditation, un rappel que la justice ne consiste pas seulement à condamner, mais à continuer de dire le nom des victimes. Ainsi, l'affaire Claire Valette cessa d'être un simple dossier judiciaire pour devenir un récit collectif, une mise en garde, une métaphore. Elle nous enseigne que même dans le brouillard le plus épais, les fragments de vérité s'accrochent, qu'un reçu oublié peut défier un mensonge, et que l'ombre des montagnes n'est jamais assez dense pour étouffer à jamais la voix de ceux qu'on veut effacer. La mémoire collective a parfois la forme d'un sentier. Celui qui longe la forêt des Chavans, où l'on retrouva les restes de Claire, est devenu, au fil des ans, une sorte de pèlerinage discret. Des promeneurs s'y arrêtent, non pour contempler le paysage, mais pour écouter le silence. Ce silence n'est pas celui de la nature, mais celui d'une vérité trop longtemps recouverte. Là, dans l'ombre des sapins, on a compris que la disparition n'était pas un accident, mais un effacement calculé. Et cet endroit, marqué par l'odeur d'humus et de résine, est devenu le véritable tombeau invisible de Claire Valette. Ce que le procès avait éclairé, la mémoire, l'entretien, le mécanisme du mensonge. Antoine avait cru qu'en disséminant quelques traces fabriquées, il pourrait contrôler le récit. Les refuges comme témoins, la montagne comme complice, le brouillard comme rideau. Mais c'est précisément cette volonté de trop en faire, de multiplier les appels inutiles qui le trahit. L'excès est toujours la fissure du mensonge. Dans les carnets du goûter et du tête-rousse, les mots « inutile » et « météo » résonnent désormais comme des pierres d'achoppement, de simples mentions qui, en se combinant à un reçu et à une photo, suffisent à faire s'écrouler l'édifice. Les enquêteurs, lorsqu'ils racontent l'affaire aujourd'hui, insistent sur ce paradoxe. Ce ne sont pas les grandes technologies ni les révélations spectaculaires qui ont fait tomber le coupable, mais la modestie d'un ticket de caisse, la routine d'un gardien consciencieux, le hasard d'un cliché. Ils rappellent que la vérité se cache dans l'ordinaire, dans ce que l'on néglige. « Rien n'est trop petit », disent-ils, et ce principe est devenu une maxime enseignée aux nouvelles promotions de la gendarmerie de haute montagne. Cherchez dans les marges, car c'est là que les criminels, persuadés de leur génie, laissent leurs empreintes. Pour la mère de Claire, cette vérité-là était à double tranchant. Elle avait espéré pendant 9 ans que sa fille s'était simplement perdue, qu'elle s'était éteinte dans la pureté des cimes. Découvrir qu'elle avait, elle avait été victime d'une machination intime fut une blessure plus profonde encore. Mais paradoxalement, c'est ce même constat qui la libéra du doute. Elle n'attendait plus un retour, elle n'espérait plus des retrouvailles. Elle avait désormais un récit terrible, mais solide, sur lequel poser son deuil. On peut pleurer un accident, on peut maudire un crime, mais on ne peut pas vivre sans savoir, confia-t-elle. Dans les années 2000, l'affaire Claire Valette fut citée dans plusieurs colloques de criminologie. Elle servit d'exemple à la fois pour la difficulté d'enquêter en milieu naturel et pour la puissance des indices indirects. On évoqua des précédents célèbres, les dossiers Dominici, où un détail de cartouche avait tout bouleversé, les affaires de naufrage maquillé révélées par de simples factures de carburant. La justice, expliquaient les experts, n'est pas une science exacte mais un art patient, qui consiste à tisser des fils entre des fragments apparemment dérisoires. Le cas de Claire illustrait à la perfection cette logique. Un tissu fragile de papier avait résisté à la montagne et au temps. Mais l'histoire ne s'arrête pas au verdict. Antoine, incarcéré, continua d'entretenir le doute. Il ne confessa jamais. Pour lui, admettre, c'était céder la dernière parcelle de contrôle. Il se contentait de phrases sibyllines. « Je n'ai pas voulu ça. Elle a choisi une autre voie. Les montagnes gardent leurs secrets. » Ces mots, prononcés avec une lenteur calculée, entretenaient une zone grise qui torturait les proches. Comme beaucoup de coupables sans aveu, ils préféraient laisser flotter le mystère, croyant encore garder l'avantage. Mais le mystère, cette fois, ne l'enveloppait plus. Il l'isolait. Dans la vallée, on apprit à vivre avec l'ombre de cette affaire. Les guides évoquaient parfois le nom de Claire à voix basse, comme pour rappeler que la montagne n'est jamais neutre. Elle peut être sanctuaire ou prétexte, refuge ou piège. Les touristes, eux, lisaient les articles résumant l'histoire et se penchaient sur la plaque posée au Gaillan. Certains y voyaient une tragédie d'amour, d'autres une leçon de prudence. Mais tous ressentaient le même frisson. L'idée qu'un simple ticket, oublié puisse, des années plus tard, ressusciter une vérité ensevelie. Et c'est peut-être cela, l'héritage le plus puissant de l'affaire Claire Valette. Non pas la condamnation d'un homme, mais la démonstration que rien ne disparaît vraiment, que le temps, loin d'effacer, polit et révèle, qu'un brouillard peut cacher pour une nuit, mais qu'il finit toujours par se lever. Alors, chaque fois que les nuages descendent sur Chamonix, certains habitants se souviennent de cette nuit de mars 1995 et murmurent que la montagne n'a pas seulement gardé un secret. Elle l'a, malgré elle, transmis, en le confiant à l'obstination des papiers et à la persévérance des hommes.